Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous le chip.
Vous dites que les vies noires comptent et vos amis et le président vous traitent d'indigéniste séparatiste. Détendez-vous, tout va bien se passer, vous écoutez le chip. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Ouais.
Je suis Kevin Dona et comme d'habitude, je suis accompagné de Mélanie Wonga.
Salut, salut.
Et de François Wollak.
Salut Kevin.
We are back.
On est de retour, les amis. Ça fait 4 mois qu'on a laissé les auditeurs et les auditrices sans nouvelles. Qu'est-ce? Par qui on commence, Mélanie?
Non, franchement, moi je dois dire que ça me fait vraiment plaisir d'être là en vrai. Ça fait un peu bizarre, mais ça fait plaisir. 4 mois. Enfin, les Césars, tout ça, ça paraît très très loin. On a l'impression que c'était il y a 2 ans.
François?
Moi, beaucoup de choses aussi qui sont passées. J'ai pas mal écrit d'articles, j'ai pas mal tenté de vendre aussi des articles parce que bon, c'est vrai que...
Ça pige. Moi, je voudrais parler de ce que t'as fait,
ouais.
De ce que t'as commis. L'article sur le N-word pour Yard.
Ah oui.
Il y a eu, quoi comme retour?
Ah, c'est un article, ouais, c'est un article que j'ai écrit du coup pour parler du rapport de la France avec avec le mot négro justement et notamment dans le rap français. C'est un article à moitié autobiographie parce que j'ai raconté un peu ma life aussi dedans. J'ai mélangé ça avec des interviews, avec de l'analyse et tout. Donc c'était un gros papier qui m'a pris pas mal d'investissement et j'étais très content des retours. C'était un article, c'est un des articles les plus lus ever sur Yard et tout. J'étais super content. J'ai eu pas mal de retweets et de partages, trucs comme ça. J'ai eu quelques réactions un peu mitigées. Disons que quand je dis qu'il y a un problème avec les gens qui sont pas noirs et qui disent le mot négro en répétant les paroles de rap ou parce que voilà ils appartiennent à la culture rap, ça a fait grincer quelques dents, mais en toute honnêteté j'étais presque agréablement surpris du peu de retours négatifs de ce genre que j'ai eu. Quelques personnes ont priorisé leur liberté à dire négro au-delà du sentiment des personnes noires premières concernées. Il y en a eu quelques-unes, mais franchement, beaucoup moins ce que je pensais. Et donc, j'étais très content.
Voilà. Cool. Mélanie, ma sœur m'a écrit pour me dire « il y a Mélanie sur LCI ». Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous en
qu'est-ce
dire plus?
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme vous le savez, on est passé sur TF1. Le Paris Noir et le Chip est passé dans un sujet au journal de 20h, 13h, je ne me rappelle plus.
20h.
20h sur TF1. Première chaîne d'Europe, premier journal télévisé d'Europe. Donc non, c'était très cool et du coup après on m'a rappelé pour me proposer d'aller sur LCI pour débattre de sujets d'actualité avec des personnes. Alors il faut savoir que je ne savais pas qui étaient ces personnes avant d'arriver. Il faut savoir que mon taxi a eu du retard. Donc en fait je suis arrivée en plein milieu de l'émission au lieu d'arriver au début. Et il faut savoir que quand je suis arrivée sur le plateau, les trois personnes avec qui je devais débattre étaient 3 hommes en costard-cravate, okay. Avec pas de cheveux sur le sommet du crâne. Donc,
est-ce que tu as débarqué comme la meuf noire du mème, tu sais, qui fait « Hey !» qui ouvre la porte.
Hey,
fait,
hey. Mais oui, c'était complètement ça. Complètement ça, avec le présentateur qui fait « Bonjour, Mani Manga !» Et donc, en fait, le débat portait sur la prise de parole à l'Assemblée nationale des nouveaux ministres, ce qui n'est pas spécifiquement mon turf, mais du coup, j'ai choisi d'aborder ça sur l'aspect quelle image ils ont, en fait, dans la société. Et donc, il se trouvait qu'on a parlé d'Éric Dupond-Moretti, qui est le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, et qui, notamment, était épinglé pour plusieurs prises de parole misogynes. Il a notamment appelé les femmes qui parlaient de leur expérience lors de MeToo, il les a appelés des connasses qui voulaient nuire à des hommes qui n'avaient rien fait, notamment. Il a aussi dit que le harcèlement de rue, c'était n'importe quoi de faire une loi contre, que ça se réglait avec la bienséance, il n'y avait aucun souci. Donc c'était intéressant parce qu'en fait, en face de moi, donc 3 hommes d'un certain âge qui disaient tous qu'il n'y avait aucun souci avec ça, que Gérald Darmanin, on est quand même dans un pays avec la présomption d'innocence, que voilà, donc moi je disais très bien, j'entends ce que vous dites, mais entendez aussi que certaines personnes ne soient pas d'accord avec vous et soient dans la rue et qu'il y ait des pétitions. Enfin voilà, donc c'était assez intéressant. J'étais assez contente de moi parce que du coup j'avais préparé quelques punchlines avant, j'ai pu en placer quelques-unes, pas toutes, mais voilà, non, globalement j'étais assez. Il paraît que j'avais l'air stressée. Mais en fait, ça m'a fait me rendre compte à quel point, quand on est une personne racisée dans des espaces comme ça, on se dit « oh là là, je suis pas légitime, je suis pas légitime ». Et en fait, quand on écoute ces mecs, on se rend compte qu'ils ont toujours les mêmes mécanismes, qu'ils sortent toujours les mêmes lieux communs, toujours les mêmes phrases, en fait, toutes faites. Et que derrière, il n'y a pas tant de fond que ça, quoi. Donc en fait, il n'y a pas non plus de quoi se sentir complètement illégitime. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé.
C'est décomplexant.
Ouais, franchement, ça fait du bien.
Bon, ben, je suis entouré d'agitateurs.
Toi aussi, Kevin, t'as pas du tout chômé là pendant quelques
derniers mois. J'ai sur Instagram.
J'ai beaucoup chômé pendant 3 mois. Le monde s'est un peu arrêté pour moi parce que bah du coup le tourisme.
Les visites confinées, oui, c'était
difficile. Et puis c'est revenu assez fort avec le déconfinement.
Attends, peut-être on a des nouveaux auditeurs. On peut leur dire que tu es guide touristique.
Oui, si vous ne connaissez pas, je fais les balades du Parrain Noir. C'est des balades qui, dans Paris, qui racontent les parcours de grandes figures du monde noir passées par Paris. François prend son téléphone, il connaît. Et donc, du coup, avec l'actualité des dernières semaines, des derniers mois, il y a eu un petit peu plus d'engouement. Il y a eu un retour voilà, de plein de sollicitations médiatiques. Donc, ouais, c'est cool, ça repart, en tout cas pour un public français.
Avalanche d'abonnés sur Instagram.
Tu travailles sur des projets très sombres.
Ouais, il y a d'autres choses qui arrivent et qui vont être assez cool.
Noir.
Noir, avec un W. Ça nous a manqué depuis quelques mois, notre rubrique phare, le trash iconique. On n'a qu'un seul trash iconique, celui des réseaux.
On a voulu rendre hommage au public.
Ouais. Alors, le trash icônique des réseaux, on vous a demandé sur Twitter ce que vous pensiez de la performance de Farid à Colors. Donc, si vous ne connaissez pas Studio Colors, Colors Studio, c'est une chaîne YouTube allemande qui fait des espèces de lives très épurés, mais à la fois très esthétiques, avec
le micro qui est suspendu.
Voilà, le micro suspendu, une couleur unique, un truc monochrome, donc ça rend super bien. Et puis, ils ont reçu des artistes en vue ces dernières années. C'est hyper varié. Christina de Queens, Kobalade, Georgia Smith, Hamza.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils ont à la fois les plus grosses restas américaines,
ouais,
mais ils ont aussi des gens de France, des gens d'Europe.
C'est assez précis. Ouais.
Deux fois. Et je trouve qu'ils ont une belle ouverture d'esprit aussi, ouais, sur la façon dont ils font leur curation. Ils ont
curation,
aussi pas mal d'artistes du continent africain qui ne sont pas méga forcément connus en Europe, et ils les ont quand même fait venir, etc. Non, vraiment.
Non, il y en a vraiment pour tout le monde, mais c'est précis.
C'est précis. C'est un peu The Place to Be maintenant. Quand ouais, tu es un grand artiste qui monte, il faut que tu passes à Colors quand même.
Et c'est là qu'on arrive justement à la question qu'on pose sur la performance de Farid. C'était il y a une grosse semaine.
Plus, je pense.
Ouais, une semaine.
Farid, musicien connu en France.
Farid Lopez B, qui est incontournable en ce moment, qui est un humoriste, qui est un peu plus que ça, parce qu'il a pris des positions politiques ces derniers mois, ces dernières années. Et donc là, Farid, il fait ce texte. On vous demande ce que vous en avez pensé. Grand A, génie. Grand B, gênant. Et okay. C, la réponse D.
Admettons que je change de prénom. Du coup, est-ce que tu vas oublier que je suis moins clair que les autres prénoms? Genre, si j'ai un prénom plus typiquement français, plus blanc, ton projet, c'est quoi? C'est que je le devienne avec le temps? Ah non, la couleur pour toi, c'est pas un problème, hein, parce que t'as une amie d'amis qui est plus noire qu'une arabe, excuse-moi. Ok. Et si je change de prénom et que je suis asiatique, est-ce que ce sera plus facile pour toi à prononcer que grainerie?
Et si je change de prénom. Alors, c'est le côté, la réponse A qui a gagné 48% selon nos followers.
Oui, parce que ce qu'on peut expliquer, ouais, c'est qu'il a fait. Le début, c'était un peu un truc de slam où il parlait du racisme. Et ça s'est terminé où, quand même à un moment où il a chanté.
Ouais. Ouais. Mais on aura mis un insert. Normalement, non.
Oui, mais on peut en
oui,
parler quand même.
Oui, bien
c'est-à-dire
sûr.
Qu'on s'attendait pas à ce que, enfin, on s'attend pas à ce que Farid chante quand même.
Ouais, bien sûr, c'était la surprise, et donc on demande à nos followers, et 48% nous disent génie, 23% gênant, 29% la réponse D. Mélanie et François, c'est quoi vos avis sur
moi? Je m'attendais pas à ce qu'il chante, et franchement, je trouve qu'il a quand même, enfin, il a été courageux. Hein. C'était pas horrible. Bon, c'était pas le meilleur truc du monde, mais j'ai pas tant cringé que ça.
Que tu ne le craignais.
Non.
François?
Moi, ouais, j'ai beaucoup cringé. mes dents ont grincé beaucoup, beaucoup.
Sur le fond, sur la forme, sur les deux ?
Les deux. Ouais. Les deux.
Fond aussi ?
Ouais, le fond, surtout le fond en vrai, hein, parce qu'un humoriste fasse Colors et non pas un musicien ou un chanteur, bon bah ok, pourquoi pas, et tout, c'est pas mal. Déjà, je m'attendais à ce qu'il fasse justement un truc un peu spoken word avec des rimes, je me suis dit, ah ouais, quand j'ai entendu l'instru, tu vois, parce qu'il est sur une instru du coup, il est pas a cappella, je me suis dit, ah ouais, pas mal, il va faire un spoken word et tout, mais avec dans son style, machin. En fait, non, il parle. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement lisse dans le discours. C'est vraiment un truc, c'est en gros il dit voilà, mon prénom il te convient pas, enfin il s'adresse à une personne qu'on imagine du coup blanche et pas très ouverte d'esprit, et il dit ouais, mon prénom il te convient pas, comment ça, je suis pas assez français, si je changeais mon prénom qu'est-ce que ça ferait, etc., machin. Je trouvais que c'était pas très percutant, quoi. Et le passage chanté à la fin, j'ai trouvé un peu embarrassant aussi, parce que c'est pas son cœur de métier et que clairement.
Mais tu es dans la minorité, François, puisque la plupart des gens sur Twitter sont d'accord.
Non. Ouais, je suis content qu'il y ait quand même une partie des gens, 29%, qui aient répondu la réponse D. Il y a des fans de Gad Elmaleh dans la salle, j'aime bien. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit qu'il prend pas du tout ça au second degré, qui s'appelle @SilsCelia. Et qui dit « Je prendrai Farid au sérieux quand il se sera excusé de ses « blagues » entre guillemets, ultra sexistes et grossophobes à la fin de son spectacle « Farid is the new black ».
Et les blagues sur les Antilles aussi, qu'on n'a pas oublié.
Moi, j'aime bien la blague sur les Antilles, personnellement. Je la trouve plutôt bien vue.
Pareil, il y a pas mal de gens.
C'est quoi encore la blague sur les Antilles, Farid ?
Tu sais, c'est la blague où il dit « levez la main les noirs ». Ensuite, il dit « maintenant, levez la main les noirs qui se sentent concernés par l'esclavage ». Et donc, soi-disant, t'as moins de gens qui ont levé la main à ce moment-là. Et il dit, vous voyez, les gens qui n'ont pas levé la main entre les deux, là, enfin, qui ont baissé la main entre les deux, c'est les Antillais.
Okay.
Et honnêtement, je trouvais que c'était bien vu. Je me suis levé et j'ai hué à ce moment-là, quand j'étais dans la salle, mais je trouvais ça bien vu.
Okay.
T'en as pensé quoi ? T'aurais voté quoi ?
Moi, plutôt la réponse D, parce que...
La réponse D.
C'est ça, parce que non, je suis pas impressionné par sa performance, et donc c'est un peu bif-bof. Et en fait, ce que je pense plus profondément, c'est qu'en ce moment, Farid... Il est, j'ai l'impression, plus à l'aise sur France Inter, que c'est devenu un peu... Il est devenu un peu trop beau gosse et trop leader de communauté.
Mais
en fait,
ça marche, je ne donnerai pas de nom, mais dans mes groupes WhatsApp, j'ai des filles qui disent « putain, il est problématique », mais franchement, j'irai quand même. Dédicace à toi qui nous écoutes, je sais.
Mais en tout cas, ouais, La semaine dernière, il a eu cette sortie sur France Inter où il disait qu'il pense que la France n'est pas foncièrement antiraciste et s'est plutôt bien exprimé quand il faisait la promo du film Tout Simplement Noir. Et pour revenir à Colors, ce que j'en pense, j'en pense que j'ai préféré le Colors de Luzen de Yakuza, qu'on a reçu en mars. Mais voilà, non, pas chamboulé par cette actu.
Franchement, le gars, moi, je trouve que... En fait, il devient de moins en moins cool à mes yeux. À partir du moment, j'ai l'impression, où il a décidé de volontairement, délibérément se glisser dans un costume de leader d'opinion, on va dire, j'ai trouvé qu'il a commencé à être moins cool. Genre, Salut les Blancs, c'était vraiment bien, c'était bien senti, c'était punchy, mais c'était aussi un peu spontané, je trouvais. Là, il commence à rentrer dans un truc qui, pour moi... Déjà qu'avant, je le trouvais... J'ai toujours adoré Farid, mais j'ai toujours trouvé... plus intelligent que drôle.
Que drôle, ouais.
Genre son premier spectacle, vraiment j'étais en mode ah c'est trop vrai, mais je me suis pas tapé des barres. Là, si en plus il commence à faire ça alors qu'il est pas vraiment super renseigné finalement en termes intellectuels, vous voyez ce que je veux dire, il devient un peu le nouveau This Is. Vous voyez, This Is en 2007.
Je sais pas si c'est qu'il est pas renseigné, je pense qu'il est en fait il sait à qui il s'adresse, et comme tu disais dans le truc de Colors, il s'adresse aux blancs en fait.
Ouais.
Donc je pense que
Est pas renseigné comme tu dis. C'est juste que c'est la façon dont il le fait qui, moi, je me dis ouais, il devient un peu le nouveau poster boy en fait.
Il te parlait pas à toi dans Colors, c'est clair.
Ouais, non mais c'est ça, il devient un peu, quand je dis que ça me fait penser à DC, c'est qu'il devient un peu le nouveau poster boy d'une forme de gauche française bien pensante. Moi, ça m'intéresse plus du coup.
Il se retrouve quand même dans des positions, il contredit Léa Salamé le matin en disant non, le film n'est pas une critique du communautarisme. Il se laisse pas non plus imposer de façon super caricaturale agenda.
Il est de notre côté, franchement, ouais, là-dessus, ouais. Je lui enlèverai jamais ça.
Donc, bon, 10 sur 20.
La moyenne. Ouais. On a tous les trois été au cinéma, alors pas en même temps, enfin si j'y étais avec Mélanie, mais François y a été avant. On a été voir le film sensation du moment qui fait toutes les unes depuis une semaine, Tout simplement noir, de Jean-Pascal Zadi et de John Wax.
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits, ils sont pas
c'est pas conseillé.
Ils sont pas frappés.
Nous,
mais il y aura pas une bonne ambiance.
Voilà, je vais faire une marche moi de mon côté avec les Indiens.
Soirée entre nous.
Vous niquez votre marche de renom.
Ouais, donc Tout simplement noir qui est quand même à une réception critique dite dithyrambique, on va dire, en ce moment. Le Figaro et Libération adorent. Libération dit même que c'est un remède aux crispations identitaires du moment. Mmh. Merci Libé. Et c'est un carton public, hein. C'est le meilleur démarrage parisien pour un film français depuis le début de l'année avec, alors on vous parle, 42 000 entrées. Okay. Ce qui est quand même... Enfin, post-confinement, ce qui est quand même vraiment, vraiment bien. Donc, le synopsis de ce film, donc, Tout simplement noir, c'est Jean-Pascal Zadi, qui est un acteur raté de 38 ans, qui vit avec sa femme et son fils, et qui décide de mener une marche des Noirs parce qu'il trouve qu'il est discriminé en France et dans son métier. Donc, dans la réalité, ce film, c'est un film qui est bourré de guests. C'est un casting incroyable. Hein. Enfin, en tout cas, c'est... tout le wouzou de l'acting français noir. Quoi.
Et un peu plus que donc, ça, d'ailleurs, c'est pas ouais. Que les acteurs.
On a Farid, on a Claudia Tagbo, Lilian Thuram, Joey Star, Vikash Dorasso, Karine Gioc, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Eric et Ramzy, Fadil Camara, Ahmed Silla, Mathieu Kassovitz, Soprano, Stéphie Selma et Omar Sy, notamment. Donc oui, énorme casting. Les bandes annonces ont beaucoup tourné avant, ouais. Avant que le film sorte et voilà et effectivement ça arrive en fait à un moment, le film a été conçu il y a longtemps, il devait sortir en mars et là ça arrive à un moment un instant T
opportun.
En fait très inattendu et puis en même temps Fabrice Eboué a fait une petite blague apparemment qui est mal passée le soir de la première au MK2, il a dit merci George Floyd.
Ouais.
À la première, donc voilà ce que je trouve quand même un peu malvenu. Mais on peut pas se mentir, c'est vrai que toute la promotion dont bénéficie le film actuellement, et on peut même se dire peut-être à un certain niveau, même les critiques positives du film sont un peu aussi une réponse aux événements actuels. Hein.
Tu veux dire comme une sorte de compensation de médias qui disent oh, on a adoré.
Hey, hein, hey, regardez, on aime bien les Noirs. Hein. Et puis il y a tout ce truc effectivement de ce que vous disiez qui est regardez, ce film se moque du communautarisme. Ouais. On y reviendra parce que c'est au final un retournement, je pense, de la vraie vision du film. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement là, on dit en gros, les médias classiques trouvent que le film est super. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que les Noirs conscientisés de Twitter, dans leur majorité, n'ont pas aimé ce film. Donc nous, on peut se classer dans cette catégorie-là. Mais en fait, il faut, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus profondément dans le truc, parce qu'en gros, ils considèrent que ce film est un peu caricatural et surtout qu'il arrive en retard. Qu'on aurait dû l'avoir avant, ce film. Parce qu'en fait, effectivement, le fait de montrer à l'écran ce qui est l'inverse du titre, en fait, Tout simplement noir, c'est qu'en fait, les Noirs, c'est pas parce qu'on est noir qu'on partage tous les mêmes points de vue, qu'on a tous les mêmes croyances et qu'on analyse tous notre position de noir en France de la même manière. Et je pense que ce qui est important, c'est de replacer aussi ce film dans son contexte. Parce que quand les gens disent sur Twitter, oui, aux États-Unis, ils ont Moonlight, ils ont Get Out, et nous, on a ça, il faut replacer le film dans son contexte. Le contexte, c'est une comédie française sur le racisme, écrite en 2015, qui est produite par Gaumont et qui sort en 2020. Donc, on est quand même dans le moule d'une comédie française classique.
Et Jean-Pascal Zadi se réclame de ce monde-là. Il ne demande pas autre chose. Il dit le film qu'on regarde le dimanche soir sur TF1.
Voilà, tout à fait. Je pense pas qu'il se dit je suis le prochain Jordan Peele ou le prochain Barry Jenkins. Quoi. Enfin, lui, il est vraiment dans une tradition d'humour à la française. Donc sur Twitter, il y a un certain David Honora qui est spécialiste des comédies françaises notamment, qui a expliqué dans un thread que le film fait partie d'un sous-genre, le sous-genre de la foire aux guests. C'est un sous-genre de la comédie française où en gros on invite plein d'acteurs et on fait des mini-scènes, des scénettes avec chacun d'entre eux. Donc l'exemple, typique c'est du cinéma français, c'est Astérix aux JO notamment.
Ouais, c'est une catastrophe.
Mais c'est une catastrophe, mais c'est vraiment ça. Et c'est souvent le problème des foires aux guests, c'est que c'est souvent pas très bon, parce que c'est très dépendant de qui tu as comme guest et des scènes que tu partages. Il y a des gens qui vont faire des scènes très bonnes, il y a des gens qui vont faire des scènes moins bonnes, et du coup, ton film a un équilibre un peu compliqué à tenir. Du coup, justement, on peut en parler, c'est quoi vos scènes préférées du film ?
François, je te laisse commencer.
Honnêtement, j'ai pas de scène. Je crois que ma scène préférée du film, je pense que c'est la première scène en fait. C'est la scène d'introduction. La première et la dernière en fait. Ce sont mes deux scènes préférées. La première, c'est donc. En fait, le film, il est filmé.
C'est un documentaire.
Sous la forme d'un documentaire. Donc une parodie de documentaire, comme The Office ou Parks and Recreation, dont je suis un énorme fan. Donc moi, j'ai beaucoup d'amour pour la forme documentaire, parce qu'il y a un truc, c'est les regards caméra, ouais. C'est les apartés.
Est-ce que t'es capable de jouer le malaise
Voilà, ouais. C'est les silences un peu embarrassants et tout. Donc moi, j'adore. Donc j'étais très. Très fan quand j'ai vu que ça partait comme ça. Et donc la première scène, c'est justement Jean-Pascal Zadi qui explique à la caméra qu'il a l'intention de faire une grande marche pour les Noirs, etc. Et en fait, au moment où il commence à dire « Voilà, l'homme noir doit se soulever, mon frère, nanana, etc. » Il y a sa femme qui est derrière, parce qu'en fait, ils sont en train de filmer chez lui. Il y a sa femme qui arrive, sa femme qui est blanche, qui ouvre la porte et qui est là en train de et qui en fait ne prend pas en compte le fait qu'ils sont en train de filmer quelque chose. Donc ils sont là, elle débarque ses courses et tout, elle fait du bruit, le mec il est un peu gêné, tu sais. Donc tu commences à faire ah tu vois, et à un moment il dit un truc du genre ouais, il faut qu'on fasse quelque chose, un truc comme ça, il faut qu'on agisse. Elle lui fait bah écoute, si tu veux agir, tu pourrais peut-être aller chercher ton fils à l'école pour commencer, hein. Donc bref, voilà, j'ai bien aimé cette scène parce que c'était assez représentatif de l'esprit du film, qui est de se foutre de la gueule constamment en fait du personnage principal, qui en fait est une sorte de militant, mais le militant en carton, on va
du
dire.
Du dimanche.
Ouais, voilà. Donc je trouvais à la fois dans le fond du film, dans son propos, et puis même dans la forme, le côté documentaire, le côté, tu vois, coulisses qui partent un peu en steak, c'était plutôt réussi, ouais.
Moi, c'est la scène entre Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste qui est ma scène préférée. Parce que pour moi, elle représente sous une forme assez drôle des conversations que j'ai eues beaucoup et des discussions qui même parfois sont devenues des disputes, où moi au fil des années j'ai changé de position parce que je pense qu'il n'y a pas de honte à ne pas penser la même chose 10 ans plus tard. Et donc le côté toi t'as fait casse départ, c'est irrévérencieux, tu t'en as rien à foutre de l'esclavage, que Lucien Jean-Baptiste dit à Fabrice Eboué, et Fabrice Eboué qui lui dit toi tu fais des comédies pour les blancs qui renvoient les noirs en arrière, qui nous rendent inoffensifs,
qui les mettent le cul dans la neige,
en fait c'est ouais, c'est des critiques que j'ai entendues, c'est même moi à mon égard, enfin moi personnellement le cinéma de Lucien Jean-Baptiste, si vous avez déjà écouté le chip, vous savez tout
le mal,
tout le mal que je pense de son travail. Et pourtant, juste en 5 minutes, en fait, il m'a un peu fermé ma bouche, parce que justement, pour moi, le procédé du documentaire et pourquoi il était nécessaire en 2018, 2019, 2020, c'est que les stars noires qui apparaissent sont complètement conscientes des critiques, des limites, des reproches que les Noirs de France ont à leur faire. Et pour moi, le film, ouais, il répond à ça, et par exemple, Lucien Jean-Baptiste, il montre que c'est un acteur et que aussi il est conscient de cette image de bounty, ou en tout cas d'un peu négro choco qu'il se traîne, quoi. Et que ça doit pas être une position évidente du tout.
J'ai beaucoup aimé cette scène. En plus, j'étais à la Villa Massa il y a pas longtemps.
Ouais, parce que ça s'est filmé, c'est filmé là-bas. Ouais.
Ouais, où tu payes ton truc et là tu vois qu'il sort avec sa machette, c'était assez drôle. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène avec Claudia Tagbo.
Ouais.
Je trouve les insultes qu'elle lui sort. Plus que l'aspect physique de la scène, qui est quand même assez drôle, mais en fait je trouve que ça pose bien le personnage, comme tu dis, un militant en carton, et surtout un personnage qui a toujours le don de dire le truc qui va énerver la personne en face, ouais. Et qui va la faire sortir de ses gonds.
Mais dès qu'il quitte une scène, en fait, quasiment systématiquement, les gens sont en train de se battre, de s'engueuler. Ouais.
Et puis bah ouais, le truc avec ses dents, parce que c'est vrai que quand tu vois le personnage, tu dis, enfin c'est un personnage atypique, et il aborde ça tout de suite quand elle lui dit ouais, tes dents là qui sont grosses comme des morceaux de sucre, t'arrives pas à les rentrer dans ta bouche. Et lui il dit non, mais c'est un truc. Ben voilà, je trouve que c'est une scène bien, en tout cas qui m'a fait rire, sachant que tout ne m'a pas fait rire dans le film. On va y revenir. Je voulais juste aussi souligner le rôle de Farid, qui est quand même très important dans le film par rapport au rôle de Jean-Pierre,
Jean-Pascal,
Zadie. C'est un duo classique dans la comédie. C'est l'idiot et le mec sérieux qui hallucine en fait des délires permanents du gars. Là, c'est pareil dans la grande tradition des films comme La Chèvre, notamment avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. Ouais. Et du coup, ça renforce en fait ce postulat que ce film, c'est vraiment une comédie classique française. Faite par un noir. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. On en parle souvent ici du fait qu'on n'arrive pas à aborder, en tout cas en France, on n'arrive pas vraiment à aborder le racisme sous un autre prisme que l'humour. Vous en pensez quoi, vous ?
Je suis pas complètement d'accord. Je pense que le racisme est souvent abordé, comme tu le dis, abordé par l'humour et fait de façon
même Casse Départ qui traite quand même d'un truc l'esclavage.
Bien sûr. C'est maladroit. Mais je trouve que l'autre opposé extrême, parfois misérabiliste, est tout aussi dérangeant. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'on fasse des films d'auteurs tristes sur des sans-papiers ou des grosses comédies où on rigole, c'est de pas avoir une très large variété de perspectives. Donc je reproche rien à ceux qui font des films sur les sans-papiers ni à ceux qui font des comédies sur le racisme. C'est juste que c'est à peu près les deux seules
options. Ouais. François,
ce qui me gêne en fait. On parlait du timing en fait du film dans lequel il est sorti, qui serait soi-disant favorable du coup à la fois à la réception des médias et puis favorable tout court en fait au film, à sa perception genre. Et moi je trouve que c'est l'exact inverse en fait. Ce que je veux dire, c'est que il s'est passé beaucoup de choses donc ces derniers mois avec George Floyd, Adama Traoré, Ahmaud Arbery, tout ce que vous voulez, les histoires des statues, les Blue Lives Matter, les White
Street
Lives Matter,
Press et la police.
Ouais, il s'est passé beaucoup de choses et je trouve qu'en tant que journaliste et en tant que personne noire, c'était assez fatigant. Et j'avoue qu'en fait du coup, c'était pas le film dont j'avais besoin en fait. Donc à la question, est-ce que la comédie, est-ce que le racisme, ça doit se faire par la comédie ou par autre chose, je pense qu'en fait, je voulais pas un film qui parle de racisme tout court.
T'étais pas dans le mood.
Je voulais pas. En fait, j'aurais préféré voir un film dans lequel les noirs sont présents mais se contentent d'exister en fait. Tu veux faire un truc politique ? Vas-y, fais un truc politique et fais un putain de brûlot comme Les Misérables. Qui vraiment a un rôle cathartique et qui répond à un peu à un besoin que je vais avoir. Ou alors, fais-moi un truc un peu avec des carefree black people, tu vois, un truc joyeux, léger, pas politique, comme Dope, par exemple, vous savez, le film américain là, avec A$AP Rocky, produit par Pharrell, tout ça, avec des noirs et avec de la représentation. Fais-moi l'un ou fais-moi l'autre, mais me fais pas un film drôle qui, du coup, pose des très bonnes questions politiques, et je trouvais qu'il était pas débile, franchement, il était plutôt, le propos était plutôt bien amené. Mais j'avais pas envie de voir ça en fait. J'ai envie de pouvoir être noir à l'écran sans parler politique, sans parler trauma, sans parler division, sans avoir le
François,
point levé,
François, tu sais
etc.
que tout est politique, même quand on rigole.
Ben,
et même
non,
quand
justement,
on fait des trucs légers.
Ben non, justement, les blancs, ils sont pas politiques tout le temps. Ils ont le droit de remiser leur costume de blanc.
Le fait qu'il y ait des blancs partout, c'est politique. Bon, bref, c'est un autre débat aussi.
La réalité est politique, je suis d'accord, mais tu as des comédies de blancs qui parle pas de racisme,
oui.
Du fait d'être blanc, tu vois. Et moi,
ouais,
c'est,
non,
c'est
mais
ça
là,
que
pour,
j'aurais
le
voulu.
Pour le coup, c'est vrai que c'est le film. Je pense qu'il s'était donné cette mission de parler de racisme.
Ouais.
Donc,
mais,
ouais, c'est
mais,
un autre
mais
film.
Mais du coup,
s'il
était sorti, c'est ça en fait. S'il était sorti l'an dernier, tu vois, j'aurais dit ok, c'est cool.
Ouais.
Là, avec tout ce qui s'est passé, je trouve qu'on sature un peu de ce contexte politique et du coup, j'avais pas envie de ça.
Mais je pense que, enfin, je l'ai déjà dit, mais ce film, il a écrit en 2015. Donc,
bien sûr.
Avant même que.
Ah ouais, ouais. C'est pas du tout du fait de J.P. Zadie pour le coup. C'est juste que du coup, pour moi, le contexte joue contre lui, contrairement à ce que pense Libé.
Lui, il dit que si tu fais un film sur les Noirs qui ont des problèmes, tu peux sortir en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Cet argument de genre, ouais, mais en ce moment, c'est un peu difficile pour les Noirs, j'aurais voulu autre chose. En même temps, c'est vrai.
C'est littéralement plus difficile que d'habitude.
Ce que tu dis, c'est une question que je me suis posée. Et là, je suis désolé, je suis obligé de sortir de la question du film, juste quelques secondes. Mais j'ai eu une discussion avec des amis juste avant George Floyd, où on parlait de pleurer en regardant la télé, le cinéma, les choses qui nous font pleurer. Et moi, je disais, je pleure pas en public. Rien ne me fait pleurer, à part les trucs avec des black people. Ou alors Le Tombeau des Lucioles. Sinon, je pleure pas.
C'est horrible, je l'ai vu ce film pour la première fois, j'ai cru que j'allais mourir. Quoi.
Et comme on parle jamais des black people et de nos problèmes, si j'ai envie de pleurer, bah, il me suffit d'aller sur Netflix et machin. Mais du coup, comme personne n'en parle. Et quelques jours après, ça a été justement l'espèce de truc inverse où j'en étais à partager des trucs. Ils disaient, s'il vous plaît, arrêtez. Enfin,
ouais, c'était trop.
C'est bon, j'ai besoin de me lever le matin, de travailler, de faire des trucs. Et effectivement, quelques semaines après, sort Tout Simplement Noir. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais plutôt envie de voir quelque chose qui aborde ces sujets-là, mais qui est capable d'être drôle.
Mais qu'il le fasse sans en faire son sujet principal, tu vois.
Mais non, mais François, en fait, je pense que la réception, tu vois, ça prouve justement la thèse de Tout Simplement Noir, qui est que, en fait, même si on est noir, on ressent pas tous la même chose, on n'a pas tous besoin des mêmes choses au même moment.
J'ai jamais dit que mon point de vue faisait. Enfin,
je pense que toi, t'as besoin d'une chose, Kevin le ressent différemment, quoi.
J'ai juste un truc, je ne suis pas sûr que le film, s'il n'y avait pas eu, c'est dur de faire ce genre de fiction, mais il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas toutes les manifestations, etc. Et le film, il sort en mars. Le sujet principal du film, ce n'est pas les violences policières. Sans changer le montage du film, cette fameuse scène qui nous choque.
Il y en a deux, ouais.
Il y a le ridicule et la tragédie, en fait, dans son rapport à la police. La première fois, bon, c'est un peu chiqué. Et puis la deuxième fois, on est vraiment dans un truc qui prend
au trip. Et je trouve que ça, c'est peut-être les moments les plus forts du film, parce qu'en fait, ils sont intégrés de manière tout à fait. C'est pas commenté, en fait, ces scènes. C'est filmé en plan fixe, c'est hyper violent. Ouais. Et en même temps, moi, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est bizarre, ça casse le rythme. » Mais je dis « Mais en fait, les violences policières, ça casse le rythme de ta vie, en fait, ouais. Quand ça t'arrive, quoi. » Ça arrive pas en mode…
Mauvais délire, là, ouais, la balayette,
c'est
là.
C'est bad vibes.
Bah, c'est ça, quoi. Et en fait, je trouve que c'est super bien montré, en fait, que ça arrive comme ça et que c'est une sentence et que ça fout tout en l'air, quoi. Et du coup, je trouve que c'est bien amené. Moi, ce que je voulais juste rajouter sur ce truc de timing, c'est qu'il faut se rappeler qu'en 2014, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui était une comédie qui parlait de racisme, réalisée par une personne blanche qui s'appelle Philippe de Chauron. Et des années plus tard, on a Tout Simplement Noir, qui est quand même co-réalisé par un noir. Et pour moi, c'est là, en fait, où elle se situe, l'évolution. C'est dans le traitement du racisme dans les comédies françaises. 2014-2020, il y a 6 ans entre les deux.
Après, comme tu as dit, il a été fait en 2015, ce film.
Donc c'était peut-être une réponse aussi à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on dit oui, on est en retard. Mais on évolue aussi à notre manière, peut-être.
Moi, je vois pas de linéarité. Je vois pas de linéarité, de lien de linéarité, tu vois, entre qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Tout Simplement Noir.
Je parle de la suite, l'évolution, tu vois. Moi, je parle ça vraiment en termes. Enfin, ce que je veux souligner, c'est la comédie française qui parle de racisme. Je trouve que il y a eu une évolution à ce niveau-là.
Pour aller dans le sens de Mélanie, on est obligé de parler de la question du regard blanc, de white gaze, de toutes ces choses-là. Les deux films, à leur façon, parlent de la question de l'identité dans la société française. Il y en a un qui vraiment met la famille Verneuil au centre de toutes les attentions. Et mon Dieu, comprenez comment ça peut être difficile pour une famille normale d'accueillir ces étrangers. On ne sait pas trop d'où ils arrivent. Et donc, la France entière plébiscite le truc. Et 5-6 ans plus tard, J.P. Zadi, qui... tout n'est pas parfait, évidemment, mais qui prend des libertés, qui se moque de certains trucs, qui parle de choses politiques. Je suis désolé. On va tous dire, ouais, on est en retard, mais dans nos vies à nous, je pense à vous deux en tant que journalistes, vous allez dire des choses qui vous paraissent tout à fait normales, qui certains diront, ouais, on est en retard, pourquoi vous dites ça maintenant, et qui parlent au grand public, vont être vus comme des choses très subversives. Donc, il faut aussi prendre la réalité. Et juste un truc, c'est est-ce que le film n'est pas. Ne s'adresse pas avant tout à un public légèrement averti. Ce que je veux dire, c'est que certaines des problématiques qui sont traitées dans le film peuvent passer au-dessus de la tête de certains noirs de France qui ne sont pas sur les questions de non-mixité, de trucs comme ça, obsédés par la représentation. Voilà.
Et que notamment, il a mieux démarré à Paris que dans le reste de la France. Et je pense que c'est quelque chose qui va aussi à prendre en compte. Pour la suite, quoi.
C'est un film très 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 méta, en fait, et ça, c'est une qualité que je lui reconnaîtrais. C'est que dans sa retranscription du milieu parisien afro créatif, médiatique et, on va dire, militant, c'est super bien rendu. C'est à dire que il y a une scène qui est tournée au Gaumont de Opéra, qui est donc un cinéma qui était en face du cinéma où moi-même j'étais en train de regarder le film. À un moment, ils ont rendez-vous, Farid et J.P. Zadi, ils ont rendez-vous Place de la République. J'habite juste à côté, j'ai croisé Farid, Place de la République. Le mec
L'espace-temps, c'est détendu.
Ouais, non, mais c'est ça. À un moment, le mec rencontre la brigade anti-négrophobie. Ils seront à une conférence afroféministe. C'est des gens qu'on voit jamais au ciné. Et sur ce truc-là, ce milieu dont on fait un petit peu partie aussi, ouais. Nous, le chip, bah, du coup, j'ai trouvé très finement retranscrit. Donc ça, c'est déjà ça.
Moi, sur ça, ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, le film fonctionne aussi comme un peu une critique du milieu du militantisme afro.
Ah bon ?
Et comme on l'a déjà dit, à travers un peu sa quête, JP, il découvre que non, tous les Noirs ne pensent pas pareil. Il y a les OTEP de la Ligue anti-négrophobie, il y a le Festival afroféministe qui est animé par Fadili Camara. Il y a Farid qui a une façade de mec sympa, militant, mais qui en fait est un peu obsédé par le succès. Ouais. Quoi. Et je trouve aussi que tout le film parle de cette tension entre militantisme et succès. Et pour avoir du succès, il faut plaire quand même à tout le monde, alors que pour le militantisme, il faut quand même plaire d'abord à ta base militante. Les médias, ils disent tous que le film dénonce le communautarisme. Moi, je trouve que c'est une obsession bien française et qui revient en boucle, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec Léa Salamé, et d'ailleurs, Farid l'a relevé. Le film ne dénonce pas le communautarisme, le film, en fait, essaye d'explorer ce que ça veut dire de se retrouver ensemble, en fait, et de voir qu'on est différent. Et je trouve que ça, quand même, c'est une richesse par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Tu vois, on parlait de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais je ne me souviens pas d'un film qui a abordé ne serait-ce que... Enfin, les afroféministes, c'est la première fois que je les vois dans un film, quoi.
C'est un couteau à double tranchant, parce qu'en fait... Il manque deux scènes à ce film, je trouve. Il manque deux scènes à ce film. La première scène qui manque, ce serait une scène... En fait, le mec, du coup, il navigue dans les différents courants de pensée de la communauté afro-française, très bien, enfin parisienne. Il va les voir et on voit du coup ce qui nous divise, en gros. C'est très bien. Le problème, c'est qu'à aucun moment, il montre réellement ce qui nous rassemble. La scène de violence policière dont vous parlez, elle est trop faible, elle est trop légère, elle est trop comique et elle arrive beaucoup trop tôt dans l'histoire. Elle n'est pas assez dramatique pour qu'on puisse... Pour avoir l'effet escompté. À aucun moment il ne montre dans son film ce qui nous rassemble en fait, et qui fait que le personnage principal a une cause valable. Et ce personnage là en plus, c'est la deuxième scène qui manque, c'est un mec qui est assez creux en fait, qui est un peu il est un peu stupide, mais il aurait fallu montrer une scène qui montre pourquoi il fait tout ça en fait, au-delà de l'attention, tu vois, au-delà d'avoir de l'attention et de tu vois vouloir faire un truc et être visible. Il aurait fallu une scène, je sais pas, un flashback, un truc, je sais pas. Pas forcément un trauma, mais une scène un peu forte qui montre qu'en fait, c'est un gentil débile, mais il essaie à sa manière, maladroite, de rétablir un truc, de réparer quelque chose qui s'est passé dans son expérience noire. C'est vraiment les deux scènes qui manquent. Et quand je parlais du timing qui est pas bon dans le film, c'est que...
D'accord, hein. il faut pas de flashback, c'est un mockumentaire, on reste dans le...
Je sais,
dans...
non, mais, non, mais quand la je dis flashback, continue. Peu importe la façon dont tu le fais, mais il faut qu'il y ait cette scène pour moi. Mmh. Et de la même manière qu'aujourd'hui, en termes de timing, je pense que ce serait pas très bienvenu de faire un film avec, par exemple, des flics sympas, je pense pas que ce soit le moment de montrer un militant noir... qui soit justement débile et qui sache pas de quoi il parle. Je trouve que c'est pas le moment en fait, c'est pas le bon timing.
Je suis pas d'accord, il y a une croissance. Le personnage croit.
Oui, il évolue.
Il croit pas assez.
Oui, mais il évolue, notamment avec la scène des afroféministes où au début il était là, c'est une truc pour les hommes noirs, et puis après il se fait ramasser par les afrofemmes et du coup il dit bon, ok, les femmes noires, ouais, les sœurs, vous venez. Enfin, il y a une évolution quelque
part. Mais à aucun moment on connaît ses vraies motivations.
Oui, parce que c'est un personnage de comédie.
Et aussi parce qu'on rentre. Enfin, c'est un mockumentaire qui commence au moment où on lui met son micro-cravate. Oui, dans The Office, on te fait pas de flashback sur Michael Scott.
Attends, arrête avec flashback. Je dis pas qu'il faut absolument un retour en arrière ou un truc comme ça. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment, il aurait fallu une scène un peu plus sérieuse, on va dire, et profonde, tu vois, où on comprenne un peu d'où il vient et qu'est-ce qu'il veut comme ça, quoi, tu vois. C'est ce qui m'a manqué.
Moi, j'ai quand même quelque chose à dire aussi sur la représentation des femmes noires. Vous voyez venir. Donc, le film, il a quand même un point de vue très masculin. Ce que je disais sur le fait qu'au début, c'était une marche réservée aux hommes noirs qui ont les cheveux crépus. Et le premier rôle féminin de ce film, c'est quand même celui d'une femme blanche. C'est la femme de JP, donc Camille, qui est, comme tu racontais, François, la personne un peu équilibrée, qui dit « va chercher ton gosse, t'es sûr que t'en fais pas un peu trop ?» C'est aussi la femme qui a le plus de dialogue dans tout le film. Et globalement, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une stéréotypisation des femmes noires, notamment les femmes foncées de peau, elles ont quand même un fort caractère, elles sont globalement en colère, donc Claudia Tagbo, Fadili Camara. Les métisses sont plus posées et réfléchies, Stéphie Selma sur la fin, qui quand Farid lui fait sa proposition,
elle est métisse ou juste clair de peau,
elle est light skin, quoi. Et ensuite la blanche est la bonne épouse compréhensive. Et donc je trouve que cette classification, qui est quand même quelque chose qu'on lie complètement au colorisme et au racisme, revient encore une fois. Et on peut aussi noter que aucune des femmes de noir n'est pas mon métier. Donc le livre qui est sorti l'année dernière, il y a deux ans, je ne sais plus, et qui dénonçait le racisme et la misogynie du cinéma français, qui était un livre porté par Aïssa Maïga et une quinzaine d'autres femmes, d'autres actrices noires. Aucune de ces actrices-là n'est à l'affiche du film. Alors il paraît que il y a eu des propositions qui ont été refusées. Donc on n'en sait pas plus, mais j'ai trouvé ça intéressant en fait de faire un film où t'invites plein de guests noirs, t'invites le wouzou du cinéma afro en France et par contre t'as pas les actrices noires les plus en vue quoi.
Sur le premier truc, je suis complètement d'accord effectivement c'est pas très subtil, mais en même temps ça aurait été difficile de faire de lui une sorte de militant débile, mais qui est super au taquet sur l'intersectionnalité.
Non, mais là, pour moi, ça c'est en dehors de l'histoire du film.
Oui,
c'est un truc du scénario, quoi.
Ce que je veux dire, c'est par exemple la place, le fait qu'il soit avec une femme blanche. C'est ça que je parle, par exemple. Tu vois, le fait qu'il soit marié avec une femme blanche et qu'il ait un peu sa perspective.
Que son fils s'appelle Malcolm.
De mâle alpha, tu vois, relatif. Ça aurait pas été très réaliste, mais oui je suis d'accord. Par contre, sur le deuxième truc, je j'ai rien à dire sur les gens qui sont dans le film, qui sont pas dans le film. Je sais pas pour quelles raisons les gens sont pas venus, si c'est lui qui les a
pas invités. Le film pousse pas jusqu'à remettre en question le colorisme et trucs comme ça, quoi. Ça m'a un peu dérangé, mais en même temps je trouve que c'est assez en phase avec ce qu'on voit d'habitude dans les films. Les exemples que je vais prendre, c'est Banlieusards et Les Misérables. Dans Banlieusards, alors le truc se passe en banlieue, les femmes noires ne sont pas là. J'ai d'ailleurs une copine qui avait carrément...
Tant mieux pour elle, hein.
Kerry James,
tant mieux pour elle, parce que c'est un accident, ce film.
Et qui avait dit, où sont les femmes noires dans ton film? Et il lui avait dit, j'y ai pas pensé, j'ai oublié.
Ouais, mais...
Donc voilà. Donc, en fait, je pense qu'en fait, il y a quelque chose de très significatif quand il dit ça. C'est, en fait, les hommes noirs, généralement, pensent à leur combat et ont tendance à mettre de côté les femmes noires. Et ce qui est intéressant, que tu disais dans un autre podcast, Kevin, tu disais que c'est intéressant parce qu'en fait, pourtant, dans l'espace public, les personnes qui sont le plus en vue sur ces questions-là, c'est des femmes noires.
C'est pour ça que je dis que c'est pas réaliste. Que c'est réaliste en même temps, d'une certaine façon, de la débilité du personnage, mais que très rapidement, il est obligé de faire. Mais il n'y a pas de militantisme noir en France sans les femmes. En fait, c'est juste que t'as pas allumé ta télé, t'as pas internet, t'as rien du tout en fait. Si t'es un homme noir et que t'arrives, tu fais, je vais faire une marche noire que pour les hommes et on va les faire. Enfin, tu vois, pas en 2020 quoi.
Je voulais juste aussi pour terminer souligner le passage qui m'a personnellement pas fait rire, qui m'a un peu déçu, enfin beaucoup déçu et qui m'a même un peu choqué, c'est le passage homophobe du film avec Ahmed Silla et Moussa Mansali qui jouent dans un film produit par le producteur véreux Fari. Donc le film s'appelle Black Love et il y a un grand moment no homo. En fait dans le film, voilà, il produit ça, donc le personnage de JP est hyper mal à l'aise en disant attends, tu vas faire un truc avec des gays et tout, ils sont gays machin. Et donc pourquoi pas dans le film, mais il se trouve qu'on était à la première, il se trouve qu'il y avait les acteurs qui étaient là avant le film et qu'ils en ont parlé explicitement, et parce qu'à un moment JP disait tout le monde joue son rôle dans le film, et là t'as Moussa Mansali qui a fait ah non pas moi, et Ahmed Silla qui a fait ah non pas moi, et puis qui s'est mis à imiter physiquement un homosexuel, quoi.
Ah, donc c'est l'attitude de ces deux acteurs-là pendant la première qui t'a choqué plus que le passage dans le film.
Le passage dans le film m'a choqué parce que le passage, c'était vraiment oh là là, regardez, c'est drôle, ils sont gays, quoi. Quand on voit tous les passages, c'est regardez, c'est drôle, et tout le monde riait dans la salle, donc le public était complètement dedans, alors qu'il n'y a pas de blague en fait dans cette scène. Il n'y a rien d'écrit, quoi.
Pour moi, la blague. Sur la première partie, moi je suis pas gay, tout ça, je suis complètement d'accord, super malaise. Mais sur la scène dans le film, moi ce que j'ai vu. Après voilà, je suis pas premier concerné, mais moi ce que j'ai vu, c'est surtout comment plaire à un public un peu intello, etc. C'est de faire un moonlight à la française en banlieue, tu vois.
D'ailleurs le film cite Moonlight, ouais, je sais plus lequel des acteurs.
Et voilà.
Mais ça c'est l'écriture, mais la scène telle qu'elle est tournée et l'impact qu'elle a sur le public, c'est de faire rire parce que les personnages sont gays, c'est tout. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Encore une fois, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une comédie, il y a toujours ce passage là, genre regardez, alors maintenant voilà les deux homos et on rigole. Et j'étais là genre.
Du coup finalement. À votre avis, ce film, il s'adresse à qui, en vrai? C'est ça la vraie question. Is it good for the blacks?
Moi, je pense que oui, qu'il est globalement good for the blacks, même si, évidemment, il y a des gens qui vont rien apprendre, il y a des gens qui vont pas rire, il y a tout un tas de cas de figure, mais le film est assez pour tout le monde, grand public. Et voilà. Et moi, ce que je pense aussi et ce que je souhaite au film, c'est d'être vu à l'étranger. Tu vois, que cette question de comment les Français parlent de la question noire dans tout ce qui est représentation, etc., etc., comment on est coincé sur certains trucs, ou juste comment, à quoi ça ressemble, quelles sont les têtes, à quoi ça ressemble, etc. Ouais, c'est ce que je souhaite au film.
Et toi, Mel ?
Je pense qu'it is good for the blacks. C'est pas exempt de défauts. C'est quand même, y a quand même pas mal de problèmes dans le film. Globalement, je trouve que c'est bien que ça sorte. Effectivement, si c'était sorti il y a quelques années, on aurait pu plus s'en féliciter. J'espère que ça va ouvrir un peu aussi des portes.
Il y a déjà un deuxième film de prévu
ouais,
ces deux-là.
Ouais, j'espère que ça va ouvrir des portes. J'espère que ça va permettre à des acteurs de jouer. J'aimerais bien que ça ouvre aussi des portes sur d'autres terrains que la comédie en France, même si j'ai des doutes. Mais bon, voilà.
Moi, j'en ai un peu ras la casquette de toujours devoir dire ça a le mérite d'exister. J'en ai un peu.
Bah ouais. Je pense qu'en fait, on en est là, François, malheureusement.
Ouais, je pense que mon vrai problème, en fait, c'est pas que je dois changer le film, c'est que je dois changer de pays. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi les traducteurs de la série Insecure, donc sur HBO, ont fait du vraiment bon taf.
I am doing great.
I did that girl who moved into her ex crib.
I've been working a full-time job and I've been saving.
She's been saving.
Right now, you don't have enough money to move out on your own.
I just want to know why I keep getting rejected from all these apartments.
You almost burned down the last one.
They don't know that though.
Vous avez tous les deux vu Insecure.
Oui.
Et on a... c'est sponsorisé ou qu'est-ce qui se passe?
Bah non, d'habitude,
on a de l'argent d'OCS.
D'habitude, c'est Netflix qui ralasse. Là, pour une fois, on parle d'OCS, donc c'est une bonne chose. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la série, donc Insecure, c'est une série donc HBO, produite par l'actrice et scénariste Issa Rae et écrite également par le journaliste Larry Wilmore. Donc deux personnes assez lourdes dans le Black Hollywood. Et c'est un peu un équivalent, pour faire de manière très grossière, de Sex and the City, sauf qu'on est dans les années 2010. Ce sont des femmes noires et on est à LA. Donc en fait, il reste presque plus rien de Sex and the City.
Ça parle de sexe, quoi.
Ouais, bah oui, voilà, c'est les tribulations d'un groupe de jeunes femmes à Los Angeles, leurs histoires de cœur, de cul, d'amitié et puis professionnelle. Voilà. Donc la troisième saison vient de s'achever j'ai beaucoup aimé. Je me suis un peu refait toute la série en plus de la troisième saison là pendant le confinement. Et j'ai remarqué un truc, c'est que je trouvais que la traduction, alors je parle pas de la VF, je parle pas du doublage, je parle bien des sous-titres. J'ai regardé la série en anglais sous-titrée français. Et je trouvais que c'était une traduction de plutôt bonne qualité. Je vais vous expliquer pourquoi. D'habitude, je suis toujours un peu fébrile lorsqu'il s'agit de transposer l'AAVE, vous savez, l'African American Vernacular English en français. Et là, je trouve que les sous-titres font vraiment le job. Il faut savoir que l'anglais afro-américain, c'est un langage qui est très, très racialisé, forcément, avec des mots qui relèvent de l'argot, mais qui en fait sont utilisés dans des cadres, on va dire, plus normalisés. Ce qui fait qu'en gros, pour faire simple, vous le savez très bien, si vous écoutez du rap américain, les afro-américains, entre eux, lorsqu'ils sont entre amis, toutes les deux minutes, ça va dire « nigga »,« bitch » et autres termes voilà, qui renvoient à une forme de réalité racialisée, on va dire. Et quand je regardais cette... Donc du coup, en français, ça donne quelque chose de très bizarre, parce que vous savez qu'on a une culture qui fait qu'on n'aime pas trop, surtout quand les traducteurs ne sont pas mélanodermes, on a un peu de mal à écrire ces mots-là, quoi. Vous vous souvenez de l'article...
C'est compliqué, ouais.
Là, c'est sur CECS,
ouais,
mais c'est
je
pareil.
Sais, mais en temps normal, sur Netflix, c'est compliqué.
Totalement.
Dire white people, c'est, par exemple, c'est...
Totalement. Vous vous souvenez de l'épisode qu'on a fait avec Greg Germain, donc le doubleur de Will Smith, qui nous disait un peu la même chose. Et donc moi, je ricane toujours un peu, vous savez, quand je regarde Insecure et que je vois que les mecs ont traduit nigger par mec ou type, parce que c'est toujours drôle de voir comment les Français, du coup, ils font une espèce de petite zumba, vous savez, autour de ce genre de mots et de tout ce qui est racially charged, encore une fois. Mais là, je trouvais qu'ils ont fait des bons choix, parce que vu le contexte dans lequel, par exemple, je reprends le N-word, vu le contexte dans lequel les personnages utilisent le terme, il ne s'agit pas d'un truc un peu traumatique, comme dire White People ou When They See Us. On parle d'une série avec que des personnages, des hommes et des femmes noirs pour la plupart, qui sont entre eux, qui sont amis, qui sont dans une forme de safe space, entre guillemets, et donc qui discutent les uns avec les autres. Et donc, comme dans ce genre de contexte-là, on sait très bien que quand Lorenz, par exemple, dit à un de ses potes nigger, on sait très bien qu'il dit pas nigger avec ER.
Il n'insulte pas.
Le voilà. Hard.
Voilà. on sait très bien qu'il dit frère, poteau. Et donc, je trouvais que finalement, que même si ça relève un petit peu de la Zumba, mais bon, je trouvais quand même que malgré tout, les gars, on fait le bon choix de dire ok, frère, ok, mec, pour trois dire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Frérot.
Exactement. Je trouve aussi que les traducteurs ont bien saisi le mot bitch, parce que vous savez que le mot bitch dans l'argot afro-américain, c'est très c'est meuf. Ça peut vouloir dire plein de trucs selon le contexte, selon la situation. Et je trouvais là aussi qu'ils ont fait un bon taf pour retranscrire, tu sais, la polysémie du mot. Par exemple, à un moment, Molly, elle dit à Issa, donc Molly qui est la meilleure amie d'Issa, elle dit ah, we've been some busy bitches. Tu vois, on a été très occupés. Et donc là, par exemple, tu vois, un traducteur un peu maladroit aurait pu dire on a été des. Bon, il aurait pas dit on a été
des salopes occupées.
Il aurait pas dit on a été des salopes occupées, mais il aurait dit. Il aurait peut-être traduit le mot bitch, on a été des meufs occupées, par exemple. Alors que là, les traducteurs comprenaient très bien que we've been some busy bitches, c'est un truc que les Afro-Américains font tout le temps, c'est qu'ils parlent d'eux à la troisième personne et qu'en fait, ils ont traduit on a été très occupés. Terminé. Ou alors on a été des businesswomen. Je sais plus comment ils ont traduit ça, mais je suis en mode ah, bien joué, bien joué.
Je te coupe deux secondes, ça me fait penser à l'époque où justement, il y a une dizaine d'années, je regardais beaucoup plus de séries volées avec des sous-titres.
Fan sub. Donc c'est amateur.
Fait par des gens de 15 ans.
Et le mieux que j'ai vu, c'est dans Girls, avec une meuf qui dit à une autre meuf are you fucking nuts? Et la traduction, c'est est-ce que tu baisses des noix?
Ah
là, voilà, c'est fini, c'est gagné.
Est-ce que tu baisses des noisettes? Alors, il y a un moment quand même que j'ai trouvé un peu piégeux.
Tu trouves pas que ça enlève un peu la saveur? On était très occupés.
Bah oui, mais en fait, dans le contexte où la meuf le disait, franchement, c'était le meilleur choix à faire, tu vois. En fait, un bon traducteur, il doit savoir s'éloigner parfois du sens littéral du mot, tu vois, même si tu traduis pas exactement ce que la personne dit, mais pour mieux retrouver du coup l'intention. Et je trouvais que ça, c'est un truc qu'ils font très bien, tu vois. Après tout, c'est leur job, hein, c'est même pas le mien. Mais je voulais en fait saluer ce truc-là. Il y a un passage qui est un peu piégeux. Il y a un moment, c'est même pas dans la saison 3, hein, parce que comme je vous dis, je me suis un peu refait toute la série. Il y a un moment où Issa et Molly sont en train de discuter, etc. Et je sais plus ce qui se passe, mais Molly, en gros, lui parle de ses histoires de cœur. Et en gros, elle dit qu'elle a été victime d'un fuckboy, quoi, d'un mec pas sérieux. Et Issa, elle fait genre niggas. Elle dit juste niggas. Et là, je me suis dit, j'ai commencé à transpirer. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir et à traduire? Eh ben, ils vont dire quoi? Ils vont dire les frères, les mecs. Et donc ils ont traduit par tous les mêmes. Et je me suis dit,
c'est vrai que les négros sont tous les mêmes en plus. Donc, c'est... Ouais.
Non, mais tu vois, je me suis dit comment ils vont faire pour s'en sortir. Et tous les mêmes, je trouvais que c'était retranscrire un mot qui est juste et lâcher comme ça dans une respiration et comprendre que voilà, go, c'est disait, mal, voilà, ouais, les hommes quoi. En gros, c'est les hommes quoi. Sauf que c'est négus quoi. Je trouvais que c'était bien vu. Donc voilà, le truc, c'est que voilà, j'ai trouvé en fait que les traducteurs ont bien réussi à trouver leur chemin sinueux dans toutes les expressions idiomatiques et difficilement traduisibles de l'AAVE. Il y a deux fois quand même où je les ai pris à défaut. C'est même pas sur des trucs racialisés, c'est juste qu'ils n'ont pas chopé la référence. Il y a une fois où Molly est en date avec un mec rencontré sur Tinder. Et le gars lui dit « Oh, you're the first black woman to respond to me in a minute. » Il dit « Ouais, t'es la première femme à me répondre
in a minute. »
Exactement. Et ils ont traduit par « T'es la première femme à me répondre en une minute.
Oh. »
Ouais, ils ont pas compris le « Ah !» Ils ont pas compris chez les Afro-Américains. Lorsque tu dis « in a minute », ça veut dire depuis belle lurette, ouais, depuis un bon moment, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et même quand tu veux mettre l'emphase, tu dis « It's been a hot minute. » Et là, ça veut dire que ça fait vraiment très longtemps que... T'as pas mangé de kebab, par exemple. Deuxième erreur, il y a un moment où Issa a fait le ménage chez Daniel. Donc, à un moment, voilà, elle est chez un mec qui s'appelle Daniel. Le mec rentre, on ne dit rien. et le mec rentre chez lui et la meuf a fait le ménage. Et donc, il fait « Ah, t'as fait le ménage ?» Et elle fait « Ah, won't he do it ?» Won't he do it?
C'est un truc religieux.
Ouais,
c'est un truc religieux. Vous êtes fort, hein, vous êtes fort. Parce que franchement, les traducteurs l'ont pas trouvé celle-là. Mmh. Ils ont traduit par ne le fera-t-il pas. Ce qui veut dire littéralement ça. Won't
ah
he
ouais,
do
ils
it?
Ils ont traduit quoi.
Voilà, won't he do it? Ne le fera-t-il pas. Donc ils ont pas grillé en fait qu'il s'agit d'une expression en effet, comme vous dites, tout droit sortie des églises afro-américaines. qui en fait le hi dont on parle là, c'est Dieu. Et donc en fait c'est
comme quand tu pries pour que Trump attrape le coronavirus, tu dis won't he do it.
C'est ça. En fait c'est une question rhétorique où tu poses la question, tu questionnes la capacité de Dieu à accomplir des miracles et des bienfaits dans ta vie. Évidemment c'est une question rhétorique parce que tu dis par exemple won't he do it et normalement les gens répondent yes he will, yes Lord.
C'est dans le special de Dion Cole sur Netflix.
Il exactement.
Explique au blanc dans la salle ce que ça veut dire. C'est
exactement. Oui, j'ai vu ce passage. Il y a même un morceau de gospel d'ailleurs qui a reçu des récompenses, etc. Qui est sorti genre il y a 2-3 ans d'une chanson qui s'appelle Corinne Hawthorne. Mon accent a vraiment fourché. Qui s'appelle Won't He Do It. Et donc quand Issa elle dit Won't He Do It à Daniel, elle veut pas dire ne le fera-t-il pas ou je sais pas quoi. Elle utilise l'expression de manière un peu ironique pour dire eh ouais, faut, comme quoi même les miracles ça arrive. Moi qui suis une meuf un peu bordélique, t'as vu, j'ai fait le ménage chez toi. Tout peut arriver. C'est ça qu'elle voulait dire. Et donc c'est un usage extrêmement subtil, tu vois, de l'argot afro-américain que pour le coup là c'est passé par-dessus la tête des traducteurs.
Alors que s'ils avaient des traducteurs noirs.
Je sais pas s'ils sont c'est noirs ou pas, mais en tout cas sur celui-là ils ont péché. Donc bref, en gros les dialogues d'Insecure, en fait je trouve que c'est un vrai régal en général parce qu'ils sont super rythmés, super drôles, super il y a aussi un peu de comment dire, c'est un peu acide quoi sur les bords, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que Issa Rae en fait a vraiment mis un point d'honneur à retranscrire le parler des Afro-Américains. Je pense que c'est un truc parce qu'en fait avoir des noirs à l'écran c'est bien, c'est une bonne chose. Avoir des noirs derrière la caméra c'est très cool, mais je pense que Issa Rae, parce qu'elle est noire, elle a très vite compris en fait que la question du langage, du parler et de l'accent notamment, c'est un élément identitaire super 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 important et les traducteurs de chez OCS ont quand même fait un bon taf parce que je sais pas si vous avez vu cette trend sur TikTok là, il y avait une mode à un moment, vous savez, c'était de faire des fausses scènes de Pimp My Ride en se moquant du doublage en fait.
Ah ok.
Parce que vous savez le doublage français de Pimp My Ride avec Exhibit qui parle etc, qui a donc qui a fond dans l'AVE, et ben ça donnait des trucs du genre ouais mon pote, vas-y grâce à ces nouvelles jantes tu vas grave draguer les poulettes, tu vois. Ils ont une façon de parler qui est totalement déconnectée.
C'est pas le même registre et tout. C'est beaucoup plus éloigné de la rue.
Ouais, j'ai vu 8 Mile il y a pas longtemps, j'avais jamais vu 8 Mile.
Ah ouais.
Avec
ouais.
Guillaume c'est ça. Ouais
ouais. Vois, ouais. Donc j'ai
enfin,
vu 8 Mile. Private joke. J'ai vu 8 Mile il y a pas longtemps du coup sur Netflix et on a mis des petits passages en français des fois pour se marrer et c'est assez
la VF.
Ouais, la VF elle est assez marrante quoi, c'est genre tu vas voir les mecs de Détroit vraiment street qui vont dire genre hey mec, mets pas tes pattes ici, t'es chez nous. Avec leur façon de parler complètement
inventé, on peut le dire.
Inventé, caricatural. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, le parler c'est un vrai enjeu de représentation en fait pour nous les noirs et Issa Rae l'a totalement compris quand elle fait quand elle intègre des personnages comme le voisin, vous savez son voisin qui est Blood, donc qui fait partie du gang des Blood.
Ah oui, Brazy.
Exactement, les Blood c'est ce gang américain qui remplace tous les C par des B et du coup le personnage dit voilà Credit Bard au lieu de dire la credit card, tu vois, vous parlez de sa carte bleue. Donc voilà, elle a inséré plein de trucs comme ça parce que je pense qu'elle a pleinement conscience que cette réalité sociale du langage, elle est super importante pour nous et qu'il faut la mettre dans sa série. Et donc voilà, merci OCS pour avoir le moins possible, on va dire, dénaturé ce travail. Et puis évidemment, ben merci Issa Rae parce que voilà, elle a fait ça pour la culture et and that.
Donc le chip est disponible pour du sponsoring OCS.
Moi, ce que je voulais vous recommander cette semaine, c'est un album qui est sorti juste avant le confinement, qui s'appelle La Vie Augmente Volume 3 du rappeur Isha. Isha, c'est un rappeur de Belgique qui est d'origine congolaise et qui a fait, il y a 2-3 ans, son comeback dans le rap. En fait, il a commencé à rapper à la fin des années 2000, ça n'a pas marché comme il voulait, il y a eu la case prison, etc. Et en fait, il est revenu. Et là, en début d'année, il a sorti un album que j'ai vraiment, vraiment beaucoup saigné pendant le confinement et que je vous recommande vivement. C'est un proche de Jean-Jacques et Caballero. Et en vrai, c'est un bonhomme assez épais qui ne va pas glorifier la rue, qui effectivement fait de l'ego trip, mais tout en gardant une certaine humilité. Je trouve ça très cool. Il y a quelques morceaux qui se détachent vraiment. Il y a Idol avec Dinos. Il y a Magma, il y a Durag et il y a bien évidemment...
Les Magiciens.
Les Magiciens.
Les Magiciens.
Qui pour moi a pris une nouvelle tournure. Enfin ouais, un nouveau sens je veux dire plutôt avec notamment les questions autour de Léopold II, des statues, tout ça. Les Magiciens en fait c'est un morceau qui commence par le feu est sorti de leur bateau sur la plage, le sang a coulé. Ils ont pris l'or et les diamants, ils ont laissé le livre magique. Et en fait, les magiciens, c'est les colons, c'est les chrétiens, c'est les blancs, c'est les belges qui arrivent dans le cœur de l'Afrique et qui vont prendre l'or et les diamants, qui ont laissé le livre magique, donc
la Bible,
la chrétienté, etc. C'est, évidemment, c'est quelque chose de très précis, de très politique, mais il y a un côté universel, en fait. Ça me fait penser aussi à de la science-fiction, ça pourrait être l'arrivée des extraterrestres, ça pourrait être les Allemands, ça pourrait...
La façon dont il le fait, en plus, Sisha, dans le morceau, parce que c'est un storytelling, en fait, ouais. Il se met dans la peau d'une sorte d'ado, justement, ouais. Qui voit débarquer les bateaux. La façon dont il le fait sans jamais décrire la réalité sociale, en utilisant des mots, justement, qui relèvent de la SF ou du conte,
ouais.
On a l'impression d'assister à une fable, en fait. Mmh. C'est ça que j'ai trouvé très cool.
Tous ceux qui les ont vus de près disent que leurs yeux ont la couleur du ciel. Mais ouais. Vas-y, sors, quoi.
En termes de force évocatrice, ouais, c'est ouais. Très beau morceau, très émouvant.
C'est vraiment très, très cool. Et il y avait un truc en plus que je voulais dire et que j'ai oublié. Mais ouais, en tout cas, les magiciens, en plus, c'est pas juste prêcha, tu vois. Ça reste assez enjaillant, en fait, pour un morceau comme ça, et donc ça m'a vraiment vraiment touché. C'est dommage qu'il n'y ait pas de clip, mais en tout cas, ouais, grosse force à Isha et les rappeurs de Belgique continuent à nous inonder. Il a fait d'ailleurs un Colors qui est assez marrant, où il est grimé en clown, mais voilà, gros 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 big up à Isha et mettez ça dans vos oreilles.
Alors moi, ma recommandation pour cet épisode, ce sera une autre série OCS. Je sais pas ce qui se passe, je pense que je suis en train de switcher de sponsor, je sais pas ce qui se passe. Une série OCS qui est donc diffusée sur OCS qui s'appelle Twenties. Est-ce que vous avez entendu parler ?
Non.
Twenties. C'est une série que vous allez aimer, je pense, vous deux, parce que ça a été créé par une jeune femme qui s'appelle Lena Waithe.
Ah.
Voilà, qu'on connaît donc de Master of None, la série de Aziz Ansari. Bon, de Ready Player One, je le dis parce que c'est un film de Spielberg, mais bon, c'est pas son rôle le plus...
C'est quoi le Slim et... non, le film qui est sorti.
Queen and Slim.
Queen and Slim.
Elle a aussi, ouais, elle a écrit ce film, c'est ça ?
Ouais.
Donc voilà, scénariste également sur la série The Cha. Donc voilà, c'est une série créée par Lena Waithe et c'est largement autobiographique, on va dire, parce que elle s'est inspirée de sa propre vie et ses jeunes années, notamment de jeune scénariste fauché à LA pour écrire. You just got evicted and you're trying to go sit on the grass and watch a movie? Yeah. You need to let me help you get a job. I don't want some stressful 9-to-5 that's gonna take me away from my writing. I do need a writer's PA. I'll take it. Finally got a job. Oh, she is very stylish. Or he, or maybe that's the they. Unclear. You need to be the best writer's PA they've ever had. What's your job description again? To make your life easier. You're not doing that right now. Donc c'est l'histoire de Hattie, qui est une jeune femme noire, queer, qui est donc incarnée par l'actrice Jojo Gibbs. Donc c'est une jeune scénariste au chômage qui en plus se retrouve à la rue au premier épisode et qui cherche à travailler du coup pour la télévision. Et donc en gros, c'est son struggle et sa vie, accompagnée de ses deux meilleures amies, Marie, donc, qui est incarnée par Gabrielle Graham, et Nia, donc, qui est incarnée par Christina Elmore, qui n'est autre que le personnage de Condola dans Insecure.
Mmh.
Donc... et c'est pas le seul parallèle que je vais faire avec Insecure. Alors je fais des généralités, mais c'est quand même une série qui se passe à LA, qui est centrée donc sur la vie et les tribulations de femmes noires, avec donc les mêmes thèmes de sororité, cette esthétique
plus jeune, quand même, non
plus jeune, voilà, et avec aussi ce truc très millénial, cette angoisse générationnelle en fait de s'insérer dans la vie, donc avec beaucoup de, vous savez, de plans contemplatifs, vous savez, de Los Angeles, vous savez, les plans aériens avec les palmiers, les trucs comme ça. On évolue dans le même milieu.
Ah, ils ont eu des drones.
Exactement. Et puis, tu sais, on évolue dans le même milieu black, un peu arty, en ouais. même temps très, très, très fauché, mais très hipster de ouais. LA. Donc voilà, en termes d'ambiance et d'atmosphère, il faut admettre que c'est très proche de Insecure, mais qu'il y a quand même ses propres spécificités.
Donc nous, on est dans le milieu arty, mais fauché de Paris, c'est ça ?
Totalement.
Du 10e.
Arty,
je pense qu'on peut dire.
Arty, vite fait.
Ouais, moi, j'aime pas Solange, donc vous savez où ma position là-dessus. Non, franchement, voilà, c'est une série qui est diffusé depuis mars seulement, donc il n'y a que quelques épisodes, je crois qu'il y en a 8 qui sont sortis. Donc voilà, si vous êtes fan d'Insecure, il y a beaucoup de gens qui écoutent le type qui sont fans d'Insecure et que du coup vous attendez comme nous la saison suivante, mettez-vous ça sous la dent et je pense que ça pourrait même devenir bien plus qu'un simple
encart. Et t'as parlé de Condola et je voulais juste souligner que Condola, on lui donne plein de noms depuis le dernier épisode de la saison, dont Condom, qui me fait toujours rire, voilà.
Spoiler.
Pas vraiment.
C'est la fin de cet épisode. Merci à tous. Ça fait très étrange de revenir. Je crois qu'on avait plein de trucs à dire.
J'ai l'impression que c'est le premier épisode qu'on a jamais enregistré.
Ouais, mais non, mais c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et mettez-nous des étoiles, 5 de préférence. Laissez des commentaires positifs.
Suivez-nous sur les réseaux.
Suivez-nous sur les réseaux.
On a eu plein de followers ces derniers temps.
Je ne sais pas comment. Et
@thechippodcast
sur tous les réseaux sociaux. Et puis
les retours aussi sur le jeu. Vous avez
c'est vrai que les jeux sont arrivés. C'est trop cool.
On a vu sur Insta qu'il y avait des gens qui faisaient du unboxing de jeux.
Merci à vous. Et puis en plus, on va remettre en vente. Ouais. Il en reste
a priori,
un petit
peu.
Ouais, il nous en reste.
Si vous avez loupé le...
Il nous en reste sur les bras. On doit faire le déstockage. Mais ouais, il nous reste des exemplaires. Donc pour les personnes qui nous ont envoyé des messages et qui nous ont dit voilà comment je fais alors que la campagne Ulule est finie. Vous inquiétez pas, on va bientôt faire un réassort comme on dit, et peut-être même les mettre en vente dans un lieu physique, mais ça on en dit pas plus pour l'instant.
Bah écoutez, prenez soin de vous et on se voit dans 2 semaines-ish à peu près.
Si Dieu veut.
Bye bye.
On les deux.
Bisous.
Bisous.